Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Selon une enquête réalisée par Malakoff Humanis, 32% des salariés se disent satisfaits de leur qualité de vie au travail. Ce pourcentage, relativement bas, soulève des questions importantes sur l'environnement professionnel actuel et sur ce que nous pouvons faire pour l'améliorer. La qualité de vie au travail est une composante essentielle du bien-être des salariés, mais également un levier de performance pour les entreprises. Pourtant, un grand nombre de salariés expriment une insatisfaction. Quelles pourraient être les raisons derrière ce chiffre ? Alors, plusieurs facteurs semblent jouer un rôle crucial. Le stress au travail, la reconnaissance insuffisante et l'équilibre entre vie pro et vie perso sont souvent pointés du doigt. Ces éléments sont cruciaux car ils affectent directement l'engagement et la motivation des salariés. Prendre en compte ces aspects n'est pas juste une question de bien-être, mais également une stratégie pour améliorer la productivité et l'atmosphère générale au travail. Des études montrent que les salariés satisfaits tendent à être plus fidèles à leur entreprise, plus motivés et productifs. Alors, comment pouvons-nous améliorer cette situation ? Tout d'abord, il est essentiel pour les entreprises de réaliser des évaluations régulières de l'environnement de travail par des enquêtes internes ou des discussions ouvertes. Certaines entreprises le font même tous les mois. Ces évaluations permettent d'identifier les problèmes spécifiques et de comprendre les besoins des salariés. Ensuite, mettre en place des programmes de soutien tels que des formations sur la gestion du stress, des ateliers sur l'équilibre vie pro-vie perso et renforcer la reconnaissance au travail peut créer un changement significatif. Par exemple, reconnaître les efforts des salariés régulièrement et de manière significative peut augmenter leur sentiment de valeur et de satisfaction. Il est évident, comme j'en parle très souvent, que la formation des managers est au cœur de tout. Enfin, il faut encourager une culture d'ouverture où les feedbacks sont non seulement acceptés, mais encouragés. Cela peut aider à résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Et quand je parle de feedback, je ne parle pas que de feedback descendant, mais également remontant des salariés vers leur manager. Cela implique de créer des canaux de communication efficaces où les salariés se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations et suggestions. En conclusion, bien que le chiffre de 32% puisse sembler décourageant, il représente également une opportunité pour les entreprises d'explorer de nouvelles façons d'améliorer leur environnement de travail, en prenant des mesures proactives pour adresser les facteurs de dissatisfaction. Non seulement nous pouvons augmenter le pourcentage de salariés satisfaits, mais également contribuer à la création d'un lieu de travail dynamique et engageant. Je crois profondément que ce pourcentage ne peut qu'augmenter à partir du moment où les directions en prennent la décision. Et oui, comme je le dis souvent, un escalier, cela se nettoie toujours par le haut. Selon un sondage réalisé par la Harvard Business Review, 57% des managers admettent que la peur impacte leur capacité de décision, tandis que 49% craignent les critiques de leurs supérieurs ou de leurs collaborateurs en cas de décision. Explorons ensemble comment ces craintes affectent le leadership et comment les managers peuvent les surmonter pour exceller dans leur rôle. La peur de l'échec n'est pas un phénomène isolé dans le monde du management. Elle se manifeste souvent par une hésitation à prendre des risques ou à innover. Pour un manager, cette peur peut résulter de la pression à atteindre des résultats constants, menant à des choix certes sécures, mais peu innovants. Cette dynamique crée un cycle où les opportunités de croissance personnelle et organisationnelle sont manquées. Comment alors, en tant que manager, peut-on reconnaître cette peur et y faire face de manière constructive ? Presque la moitié des managers interrogés redoutent les critiques, que ce soit de la part de leurs supérieurs ou de leurs collaborateurs. Cette peur peut mener à des comportements de conformisme où les décisions sont prises non pas sur la base de ce qui est meilleur pour l'équipe ou l'entreprise, mais pour éviter le conflit ou la désapprobation. Pour surmonter cette crainte, il est crucial de développer une culture d'entreprise où le feedback est vu comme une opportunité de croissance et non comme une menace. J'aime à citer ce proverbe japonais, « Le succès, c'est savoir tomber 7 fois et se relever 8 ». Il faut effectivement encourager un environnement où le feedback est régulier, constructif et orienté vers des solutions plutôt que punitif. Il faut adopter une mentalité où les échecs sont perçus comme des étapes naturelles du processus d'apprentissage. Et oui, pour apprendre à marcher, il faut tomber. Et enfin, il faut travailler sur des stratégies personnelles pour gérer le stress et l'incertitude, telles que la méditation, la formation continue et le coaching. La peur non adressée peut non seulement limiter la croissance personnelle d'un manager, mais aussi affecter le moral et la productivité de toute une équipe. Un leader qui montre l'exemple en affrontant ses peurs instaure un climat de confiance et d'ouverture, essentiel pour une équipe dynamique et innovante. Les managers jouent un rôle crucial dans le succès d'une organisation, nous le savons bien, et surmonter leurs peurs est essentiel pour réaliser pleinement leur potentiel de leadership. En adressant ouvertement les sujets de la peur de l'échec et de la critique, vous pouvez non seulement améliorer votre efficacité en tant que manager, mais également inspirer vos équipes à embrasser les défis avec confiance. Plus le tabou de la peur est levé, plus les équipes seront créatives. Selon une étude réalisée par Cadre Emploi, 69% des cadres disent que leur travail correspond à leur aspiration et 76% se sentent épanouis. Qu'est-ce que cela nous dit sur le monde du travail moderne pour les cadres? Plongeons ensemble dans ces données pour comprendre ce qui contribue à cet épanouissement. D'abord, regardons le chiffre de 69% des cadres qui estiment que leur métier correspond à leurs aspirations. Cela pourrait indiquer une forte adéquation entre leur formation, leurs attentes personnelles et les opportunités de carrière disponibles. Cependant, il est essentiel de se demander comment les entreprises et les politiques de gestion des talents soutiennent-elles cette correspondance? Les programmes de développement professionnel et la clarté des parcours de carrière jouent ici un rôle crucial. Passons aux 76% qui se disent épanouis. Quels pourraient être les principaux facteurs contribuant à cet épanouissement? Trois éléments ressortent dans cette étude. En 1, l'autonomie. La capacité de prendre des décisions et de contrôler son travail est un puissant moteur de satisfaction. Il est vrai qu'avoir son propre manager qui surveille tout ce qu'on fait, c'est un tantinet infantilisant. En 2, la reconnaissance. Recevoir une reconnaissance pour son travail, que ce soit par des récompenses, des promotions ou simplement des félicitations, renforce le sentiment de valorisation. Et enfin, en 3, l'équilibre vie pro-vie perso. Avoir suffisamment de temps pour des activités personnelles et familiales est essentiel pour maintenir l'engagement et éviter l'épuisement professionnel. Cependant, si une majorité se sent épanouie, qu'en est-il des 24% restants? Ces cadres pourraient faire face à des défis tels que le manque de reconnaissance, des désaccords avec la culture d'entreprise ou une mauvaise adéquation entre leurs valeurs et celles de leur lieu de travail. Aborder ces défis est vraiment important pour les ressources humaines afin d'assurer que l'épanouissement au travail ne soit pas juste un privilège pour quelques-uns. Ces données en fait nous offrent un aperçu rassurant mais aussi des pistes de réflexion sur ce qui pourrait être amélioré. Pour chaque cadre épanoui, un plan d'action personnel et professionnel bien conçu, aligné sur des valeurs claires et soutenu par une gestion attentive, peut transformer le travail en une source de satisfaction profonde. Et de vous à moi, on va pas se mentir, c'est quand même extrêmement agréable de se sentir bien au travail, non ? Selon une étude réalisée par l'Institut Montaigne, 60% des salariés se retrouvent à travailler après 20 heures ou pendant les week-ends. Quelles implications cela a-t-il sur nos vies quotidiennes et notre bien-être? Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Imaginez, 6 salariés sur 10 ne ferment pas la porte au travail, même en soirée ou durant le week-end. Ce chiffre, à lui seul, nous pousse à réfléchir sur la manière dont les exigences professionnelles s'infiltrent petit à petit dans notre espace privé. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'évolution de nos emplois et de nos attentes envers eux? Parce que, en plus de ces heures étendues, 24% des salariés se sentent dépassés par un volume de travail considéré comme excessif. Et ce n'est pas sans conséquence, bien sûr. Stress accru, risque de burn-out et vie personnelle qui peut en pâtir. Et oui, la soirée avec son amoureux ou son amoureuse en répondant à des mails en même temps, ce n'est pas véritablement un conseil romantique. Comment ces exigences alors affectent-elles notre santé mentale et physique? Peut-on vraiment Parler d'un équilibre vie pro-vie perso dans ce contexte. En fait, face à cette réalité, il est crucial de rechercher des moyens pour mieux gérer nos frontières professionnelles. Des stratégies comme la définition claire des heures de travail, la déconnexion numérique après les heures de bureau et la sensibilisation des entreprises aux impacts de ces charges de travail sur leurs équipes. Peut-être est-il temps de repenser collectivement à comment nous valorisons le temps et l'équilibre. Je recommande très souvent, en fait, de parler de cela au sein de chaque équipe, de mettre en place des règles toutes simples, interdiction d'envoyer des emails le week-end ou après telle heure, bref, des règles qui n'ont pas forcément à attendre une règle générale dans toute l'entreprise, mais cela peut se faire au niveau de chaque équipe. En fait, le débat sur les heures de travail et l'équilibre vie pro-vie perso est plus pertinent que jamais. En tant que société, en tant qu'employeur et employé, nous devons réfléchir aux valeurs que nous attribuons au travail et à la vie personnelle. Se pourrait-il que retrouver un équilibre soit la clé pour non seulement améliorer notre bien-être, mais aussi notre productivité et notre satisfaction au travail? En tout cas, aucun doute à ce sujet, c'est ma conviction. Une étude de Zenger Folkman a révélé que seulement 30% des managers sont considérés comme des décideurs exceptionnels par leurs équipes. Alors comment pouvez-vous rejoindre ce groupe d'élite? En fait, selon l'étude de Zenger Folkman, 52% des managers sont perçus comme moyens en tant que décideurs et 18% comme déficients en matière de prise de décision. Ces chiffres montrent une opportunité énorme pour de nombreux leaders d'améliorer leurs compétences dans ce domaine crucial. Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce qu'une décision efficace peut non seulement améliorer la performance de l'équipe, mais aussi améliorer la confiance et le moral des salariés. En fait, les décideurs exceptionnels partagent souvent quelques traits communs. Tout d'abord, la clarté de vision. Ils ont une compréhension claire des objectifs à long terme, ce qui aide à aligner chaque décision avec ses objectifs. Ensuite, ils ont une analyse approfondie. Ils prennent le temps de considérer toutes les options et les implications potentielles avant de faire un choix. Et oui, ils ne se lancent pas tête baissée. Ensuite, il y a la confiance et la délégation. Ils savent quand et comment déléguer des décisions, en renforçant ainsi la confiance et le développement de leurs équipes. Et enfin, ils savent communiquer de façon efficace. Ils expliquent clairement les raisons derrière leurs décisions, assurant une compréhension et un engagement complet de leur équipe. Pour améliorer ses compétences de décision, il y a quelques stratégies très concrètes. La première, c'est de se former continuellement. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Oui, pour prendre une décision, il faut avoir des données très claires et la formation peut les donner. Ensuite, il faut demander des retours. Il faut encourager les retours constructifs sur ses décisions pour s'améliorer, de la part de son équipe, bien entendu, mais également de son propre management. Ensuite, il faut pratiquer la prise de décision. Mettez-vous dans des situations où vous devez prendre des décisions fréquemment. L'expérience est une grande enseignante. Et enfin, vous pouvez utiliser des outils d'aide à la décision. Il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir des outils analytiques et des logiciels qui peuvent vous aider à évaluer les options. Alors non, le numérique ne vous remplacera jamais car in fine, c'est vous qui prenez la décision, mais mettre un petit peu de cartésien dans ce qui peut paraître totalement subjectif parfois, cela peut être rassurant. Devenir un décideur exceptionnel est un voyage qui nécessite de la détermination, de l'apprentissage et une volonté constante d'amélioration. Avec les conseils que je viens de vous partager, vous êtes peut-être un petit peu mieux équipé pour prendre de meilleures décisions et potentiellement augmenter votre rang parmi les 30% de managers qui sont vus comme exceptionnels par leurs équipes. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.